Être loin géographiquement, être loin de vous, et pourtant vous sentir si près. Partager en voyant passer un lion, un éléphant, une girafe. Partager votre vie quotidienne. Pensez à cette femme qui caresse un chat sur ses genoux dans ce pavillon de Viroflay. À ce chien qui aboie dans ces collines de Montbrison, ces chevaux qui courent sur la plage de Villerville. Tous ces animaux qui nous ramènent à notre condition humaine. Le jour où les éléphants ne pourront plus vivre en liberté, le jour où le monde sera juste adapté à nous les humains, ça voudra dire que nous-mêmes, les humains, ne pourrons plus y vivre. Au revoir, amis animaux. À tout de suite, ici, Johannesburg, à vous, Paris.
Quelle heure est-il à Paris? Il est 7h02, je crois bien. Thierry Paret, bonjour.
Bonjour tout le monde. Les candidats à la primaire socialiste s'étaient tous engagés à soutenir le vainqueur. Une promesse qui ne sera peut-être pas tenue par Manuel Valls, selon le Parisien. L'ancien Premier ministre s'apprêterait à s'exprimer pour apporter son soutien à Emmanuel Macron. Et ce, dès le premier tour. Alors l'intéressé et ses proches démentent, mais le quotidien, lui, précise que l'ancien Premier ministre pourrait s'exprimer avant le 23 avril. Les jours passent et se ressemblent pour François Fillon. Ils sont bercés par les affaires, entre guillemets, à propos de ses costumes de luxe d'abord offerts par un ami. Ferdinand Mélin-Soukramanien, déontologue de l'Assemblée nationale, a annoncé s'être saisi de l'affaire pour rechercher s'il y a eu un manquement ou pas au code de déontologie des députés. Et puis à propos du Penelope Gate, le candidat de la droite pourrait être mis en examen demain. C'est dans ce contexte que l'on apprend que sur les 46 000 euros nets touchés par Marie Fillon, comme attachée parlementaire de son père au Sénat, eh bien celle-ci aurait rétrocédé environ 33 000 euros sur le compte joint de ses parents, soit plus de 70% de ses rémunérations. C'est la fille de François Fillon elle-même qui, lors de son audition le 9 février dernier, aurait spontanément révélé l'existence de ces virements à la police judiciaire. Depuis, ces derniers suscitent beaucoup d'interrogations chez les enquêteurs. Marie Fillon évoque pour sa part le remboursement des frais engagés pour son mariage. François Fillon, ce sont les affaires, mais pas que. C'est une campagne aussi, un programme. Et le candidat de la droite a exposé hier, lors d'une conférence de presse, son projet pour la France en confirmant son intention de mettre fin aux 35 heures et à l'ISF, l'impôt sur la fortune, tout en supprimant 500 000 postes de fonctionnaires. L'augmentation de la TVA, la refonte du code du travail, la réforme de l'assurance maladie reste aussi également à l'ordre du jour. Après le référendum britannique en faveur du Brexit, les députés britanniques ont approuvé la loi autorisant le gouvernement à activer le fameux article 50 du traité de Lisbonne qui ouvre donc officiellement la porte de la sortie pour l'Angleterre. Le processus, ceci dit, va être encore long, au moins 2 ans. Le même jour, la première ministre écossaise a annoncé qu'elle allait proposer un nouveau référendum sur l'indépendance de l'Écosse, un projet d'ores et déjà refusé par la première ministre britannique Theresa May. Les tensions avec la Turquie ne retombent pas, rappel des faits rapidement, alors que se profile un référendum le 16 avril en Turquie destiné à renforcer les pouvoirs du président Erdogan. Le ministre des Affaires étrangères turc tente de multiplier les meetings dans plusieurs pays européens pour convaincre la diaspora de voter oui à ce référendum. Alors que la Suisse, l'Allemagne et les Pays-Bas ont refusé d'accueillir de telles réunions politiques, la France, pour sa part, a autorisé le ministre turc des Affaires étrangères à participer à un meeting pro-Erdogan à Metz dimanche, au prétexte qu'il n'y avait pas de trouble à l'ordre public.
Et d'ailleurs, dans 10 minutes, on en parle de la question turque avec Laure Marchand, qui est journaliste et qui a travaillé pendant 10 ans à Istanbul.
Voilà, hier soir, les premières sanctions turques vis-à-vis des Pays-Bas sont tombées. La Turquie annonce la suspension des rencontres bilatérales avec les ministres et aux dirigeants néerlandais. L'ambassadeur néerlandais à Ankara a été déclaré persona non grata. Et puis enfin, le gouvernement d'Ankara va demander au Parlement turc de dénoncer le traité d'amitié unissant la Turquie et les Pays-Bas. Albi contre les États-Unis, un reportage peu flatteur du New York Times sur la ville préfecture du Tarn, décrite comme un endroit aux rues désertes avec petits commerces moribonds. Les centres commerciaux bondés a suscité un tollé dans la ville albigeoise. Le grand quotidien américain y voit le symbole des villes moyennes françaises rongées par la mondialisation.
Et puis un coup de tonnerre. Moi juste, je voulais dire, je suis né à Albi, j'adore Albi, je vais y vivre bientôt, donc je trouve que cette ville est magnifique. Et les États-Unis disent encore une fois des conneries, il faut le dire.
Et puis un coup de tonnerre dans le rugby français. Le Racing 92 et le Stade français, les deux derniers vainqueurs du top 14, ont annoncé un projet de fusion afin de donner naissance à un unique club francilien. Alors cette association qui sera effective dès la saison prochaine, donc dès le mois d'août, soulève beaucoup d'interrogations. Qui dirigera ce nouveau club? Avec quels joueurs? Dans quel stade? Est-ce qu'il y aura une nouvelle place dans le top 14? Enfin voilà, la Fédération française de rugby. Et comment il s'appellera aussi, effectivement. François, t'as raison. Et donc beaucoup d'interrogations. Pour l'instant, pas trop de réponses, un petit peu quand même. En tout cas, la Fédération française de rugby et la mairie de Paris sont pas contents du tout parce qu'ils ont appris la nouvelle en même temps que tout le monde, c'est-à-dire par la presse.
Plus près de toi.
Plus près de toi.
Près de toi.
Près, très
très près,
plus près de toi.
Très 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 près.
C'est le titre de l'émission.
Vous avez eu l'heure, non?
Juste avant d'aller à l'école, c'est parfait.
7h-9h, plus près de toi.
7h-9h, Edouard Baird, Pouette Pouette la Hurlette, Tagada la queue du rat.
Je vous jure, ça vaut le coup.
Eh ben bonjour à tous, j'ai l'impression que le patron n'est pas là ce matin.
On fait l'appel un peu quand même.
Alors qui est là?
Tout le monde est là, il y a Thomas.
Moi je suis venu aussi,
François
monsieur.
Rollin.
Ouais,
voilà.
Il y a Tito.
Tito, hors micro.
Et Marie Missé dans les couloirs qui va venir aussi.
Elle sera là aussi. Bon, Edouard Baird est là mais il n'est pas là. Bon, enfin il est un peu...
Il est toujours un peu là.
Ça a toujours été son cas d'être à la fois là et pas là. Moi depuis que je le connais, c'est vrai que même par exemple à dîner, eh ben il est là puis il n'est pas là. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit quand même qu'il est là parce que son assiette se vide, mais en même temps...
Il dit rien, pas un mot.
Non, on sait pas trop.
Et à l'addition, il est là ou pas?
C'est pour ça qu'on l'aime aussi, hein, c'est son...
Ah, je le vois là sur mon écran de contrôle, il vient de rentrer dans cette pièce, il a une très très jolie cravate, hein, je le décris pour les auditeurs, c'est un écran...
Un costume à 13 000 euros.
Il se saisit d'un micro, peut-être qu'on va l'entendre dire un mot. Est-ce que, Edouard? Non, alors c'est la pub.
7h-9h, plus près de toi.
Sur Nova, Sing Kane à l'instant avec le titre Téléphone, il est 7h14. Qui veut lancer le grand club des connoisseurs de 7h14?
Allez, alors, moi volontiers, hein, parce que comme connoisseur, je me pose là. Hein. Et c'est surtout un commentateur que je veux être ce matin, parce que j'ai été frappé par le retour d'un des deux Carlos. Oui. Et alors, bon, j'étais pas absolument fan de Tiroli Pimpon sur le Chihuahua, mais quand même, j'aimais mieux l'autre.
Lequel?
Eh ben, celui qui chantait, Tiroli Pimpon, voilà.
Comme tout le monde.
Première information
de qualité.
Moi, j'ai trouvé une information dans le Figaro, dans les pages saumon, comme on dit, les pages saumon du Figaro, les pages écho, et c'est... un homme assez impressionnant qui s'appelle Tim Berners-Lee qui prend la parole, qui est présenté comme celui qui a inventé le web, le World Wide Web, et qui a pris la parole hier et qui s'inquiète en fait de la tournure du web. Lui, il imagine que le web, il veut un internet qui soit un bien commun, qui soit pas privatisé ou qui soit pas privatisable. Et donc voilà, il craint la perte de contrôle des données personnelles, des informations massives, les outils de ciblage publicitaire. Et donc il prend la parole pour dire qu'il y a des choses, il faut reprendre le contrôle des données personnelles. Il dit on doit contrer la désinformation, et lui il dit pour aller contre cette dérive du web, il faut aider Google, il faut aider Facebook.
Ah bon?
Voilà, donc effectivement d'une certaine manière il valide le fait que ça passe forcément par ces deux grands géants, alors que lui avait inventé un réseau totalement décentralisé. Et donc voilà, il faut aider Google et Facebook à poursuivre leurs efforts pour résoudre le problème de la désinformation, et tout en évitant de créer une institution centrale qui déciderait de ce qui est vrai ou non. C'est un peu la quadrature du cercle, mais quand un homme comme ça, Sir Tim Berners-Lee, puisqu'il a été anobli il y a quelques années, quand il dit des choses comme ça, il vaut mieux l'écouter, et finalement...
Il voit un peu tout en noir quand même, hein, faut être honnête.
Oui, bah, c'est aussi son bébé à lui, qui est devenu un outil mondial, qui a été transformé ces dernières années, donc voilà. Ouais. C'est dans le Figaro, dans les pages sur mon page 24.
Tito, ouais. Et son groupe.
Alors, il fallait y penser. Brando Mariadi l'a fait. À 24 ans, ce jeune entrepreneur originaire de M vient de créer le premier pressing pour basket. Alors, avant, on avait un costard pour être beau. Maintenant, si on a des beaux baskets, on est chouette. Et donc, pour 10 ou 20 euros, vous portez vos baskets. Alors, c'est une entreprise qui s'appelle BBB Shop Lille. Il est à Lille. Et il a déjà fait plus de 500 paires de chaussures. Ça marche à fond.
Mais ça doit puer dans les trucs, non?
C'est-à-dire, bah, c'est un problème.
C'est un problème. Allô, moi, je... Oui.
Oui, là, vous êtes très loin.
Oui.
Oui, j'ai entendu là et je trouve enfin des choses claires. Moi, le truc de Baumgartner, ce truc, ça va s'arranger. Google, ils sont gentils. Facebook et pour la privatisation des infos, pour que rien ne circule. Je n'y comprends rien. Les pages saumon du Figaro, on est déjà...
C'est très beau, les pages saumon.
Et là, j'ai du clair, j'ai des baskets dans la machine. Et là, je suis content. Merci pour tout.
Moi, je voudrais parler du théâtre à Montpellier, du théâtre pour aider les médecins à annoncer les mauvaises nouvelles. Allô? Oui. Alors, donc, il y a une initiative conjointement avec le Centre Hospitalier de Montpellier et le Conservatoire National de Montpellier pour apprendre aux médecins à annoncer des mauvaises nouvelles, donc aux patients. Donc, au lieu de leur dire, vous avez un cancer, ou alors on va être avec vous jusqu'au bout, qui peut faire peur, c'est travailler sur les distances, comment prendre les mains, comment leur dire, écoutez, ça va falloir être fort, très fort, voilà. Et là, il y a tout un travail comme ça fait avec les...
Ridicule.
Pourquoi?
Ridicule, là, parce que...
Ah bah,
Non, sinistre et ridicule. Parce que ou bien le médecin en question a, comme beaucoup de médecins, la capacité instinctive d'avoir un contact très humain avec le patient, ou bien il ne l'a pas et c'est pas les cours
non,
du conservatoire de Montpellier qui vont changer quelque chose.
Sur les médecins de famille qui sont là depuis des années, ils l'ont. Mais pour les jeunes médecins, c'est pour les apprentis médecins, dans le nouveau serment d'Hippocrate...
Mais c'est pareil, ça s'apprend pas, ça.
Si,
ça s'apprend pas.
Il y a un truc inné pour annoncer des mauvaises nouvelles.
Eh ben oui, mais vous l'avez. Absolument, oui.
Mais vous l'avez, monsieur.
La gentillesse, la compassion, la profondeur, l'intuition, voilà, tout ça, voilà. Ce sont des trucs qu'on n'apprend pas. On apprend plein de choses au théâtre, mais pas ça.
7h18, la suite.
Je quitte ce studio.
Mais bon, parce que vous venez de m'apprendre quelque chose, c'est que mon info était ridicule. Et vous n'avez pas pris des pincettes.
Non, pas votre info, admettre. C'est ce qu'ils ont fait, ce qu'ils sont en train de faire.
Ils essaient des
bricolages.
Bon, voilà.
Marie-Michel va rentrer dans le débat.
Vas-y, Marie.
Alors, pas dans ce débat-là. Non, il y a, dans un autre débat, je peux rentrer dans un débat encore plus polémique, François, si vous voulez vous y intégrer, allez-y. Relativiser un petit peu la crise identitaire et le communautarisme qui occupe un peu de place dans la campagne aujourd'hui. Dans Society, on apprend que 93% des enfants d'immigrés se sentent français et que 67% des enfants d'immigrés se marient avec un individu de la population majoritaire ou, si on veut utiliser des termes qui fâchent, avec des Français de souche. Et alors, il faut savoir que ce nombre de 67% en France, il est de seulement 17% aux États-Unis, par exemple, et qu'eux, ils se félicitent que ça monte un petit peu plus chaque année. Et dans Le Parisien, aujourd'hui, il y avait quelque chose qui allait dans le même sens. On nous apprenait que les unions mixtes, ça représentait maintenant un quart des unions en France, des mariages.
Des mariages mélangés.
François.
Ah bah non, ça rien. Ça c'est bien, ça c'est bien.
Est-ce qu'il y a un cours
ça c'est réconfortant.
Alors, est-ce qu'il y a un cours pour dire à ses parents maman, je vais me marier avec un Français de souche si on est maghrébin ou le contraire, si on est blanc, on dit
je vais me marier. Lancez-vous là-dedans, Atman. C'est un business.
Moi je suis fortement maquillé avec une italienne alors que je ne suis pas un Français de souche. Voilà, je tenais à le dire,
j'en une italienne de souche.
Une italienne de souche.
Une dernière info.
Une bûche quoi.
Une dernière info, j'ai une bactérie qui s'appelle Halomonas titanicée et qui a un os à ronger. Je peux vous dire qu'elle n'est pas prête de le lâcher. Remarque, il y a de quoi faire. Cet os à ronger fait 260 mètres de long. Il pèse 52 tonnes. C'est le Titanic. Cette bactérie, elle ronge le Titanic qui va disparaître dans 20 ans maximum, donc 2030 à peu près. En 2030, il n'y aura plus de Titanic parce que cette bactérie elle s'en donne à cœur joie. Elle bouffe
le
bateau. Bah, rien, pas grand-chose. D'autant qu'on ne sait pas d'où elle vient, cette bactérie. On ne sait pas si elle est arrivée à cause du bateau, si elle était là avant. Personne ne sait.
Le Titanic va couler, qu'est-ce qui va se passer?
Le Titanic va couler, alors on ne sait pas combien il reste de personnes à l'intérieur.
Elle ronge le fer du Titanic, tout ce qu'il y a à l'intérieur, quoi.
Oui, c'est ça.
Ouais. C'est affreux pour
elle
le
bouffe
Titanic.
Le bateau, la coque.
Et demain, tu vas crever la rirette, la rirette.
Tito et son groupe.
Plus près de toi. Et c'est 40 cuivres.
Plus près de toi, continue dans un instant.
7h-9h, plus près de toi.
Il est 7h24. Dans quelques minutes, tout à l'heure, à 7h40, on entendra Hélène Becmézian pour son livre « J'irai dormir à l'Assemblée, les secrets du Palais Bourbon ». Donc, elle nous emmènera à la buvette et dans ces endroits auxquels on n'a pas accès.
Notamment,
mais
absolument.
Mais tout de suite, on est avec autre chose.
Mais toujours l'actualité. Depuis ce week-end, les tensions entre Ankara, comme on dit, entre la Turquie et certains pays de l'Union européenne, en particulier les Pays-Bas. Il y a quelques jours auparavant, c'était l'Allemagne, et ces tensions s'attise encore ce matin. On est en lien au téléphone avec Laure Marchand, qui est journaliste, qui a travaillé 10 ans à Istanbul, qui a publié il y a quelques semaines, début janvier, chez Solin Actes Sud, un livre intitulé « Triple assassinat au 147 rue Lafayette » sur l'assassinat de trois femmes kurdes à Paris en 2013, où les services secrets turcs sont soupçonnés d'avoir joué un rôle. Bonjour Laure Marchand.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Au téléphone, le pays où vous avez travaillé pendant 10 ans, la ville où vous avez travaillé pendant 10 ans, Istanbul, est-ce qu'aujourd'hui, ce sont le même pays, la même ville?
Alors, oui et non, comme vous pouvez le penser, parce qu'effectivement, très rapidement, en quelques mois, il y a une dérive autoritaire de plus en plus marquée qui s'est installée dans le pays et que l'on ressent, que les habitants ressentent, hein, pour ceux qui ne soutiennent pas, bien sûr, le président en place. Il y a une peur, il y a vraiment cette conscience d'une démocratie qui s'éloigne de plus en plus, d'un pays qui s'éloigne de l'Union européenne, d'un pays qui est rattrapé par les guerres qui sont à ses frontières, en Syrie notamment. Et ça, effectivement, c'est quelque chose qu'on sent très très fort, sans compter cette présence policière vraiment dans toute la ville, plus également la peur des attentats. Le pays est régulièrement frappé par des attentats suicides de très forte ampleur, et ça, c'est quelque chose qui s'est intensifié ces derniers mois, et les gens, maintenant, ont peur.
Alors, est-ce que cette peur peut jouer sur le vote qui est prévu le 16 avril, donc dans un peu plus d'un mois? C'est un référendum donc organisé par le président Erdogan. C'est un référendum dont on dit qu'il est fait pour renforcer le caractère autocratique du régime d'Ankara. Est-ce que cette peur-là va jouer sur le vote?
Oui, alors ça, cette peur peut jouer sur le vote, surtout du côté des partisans justement du président Erdogan. Erdogan s'en sert justement pour justifier sa réforme, en disant le pays est en danger, le pays est attaqué, il y a des menaces terroristes de toutes parts, et pour assurer une stabilité, la seule solution est de renforcer les pouvoirs du chef de l'État, ce qui garantira un pays stable. Et ça, effectivement, c'est un argument qui est utilisé, c'est un des arguments principaux, voire l'argument principal qui est utilisé par le chef de l'État et par son camp qui a commencé la campagne. Et ça, une partie des Turcs y sont très très sensibles.
Le président Erdogan était président depuis 2 ans et demi. Il a été premier ministre pendant 11 ans auparavant. Est-ce qu'il y a eu toujours chez lui cette tendance autocratique, si on peut le dire comme ça?
Alors, avec le recul, on pourrait dire que oui, mais il faut toujours faire attention et ne pas réécrire l'histoire non plus. Et il faut se rappeler que le président Recep Tayyip Erdogan, quand il est arrivé au pouvoir, c'est lui qui a mené les réformes, de très nombreuses réformes démocratiques en Turquie à partir de 2002. C'est lui qui a rapproché le pays, la Turquie, de l'Union européenne. Les négociations d'adhésion à l'Union européenne ont été ouvertes alors qu'il était Premier ministre. Et pendant de nombreuses années, c'est son parti, islamo-conservateur, qui a mené toutes les réformes démocratiques dont le pays avait tant besoin. Donc, au début, le pays n'était pas du tout dans cette configuration. C'est ces dernières années, effectivement, que le glissement s'est effectué depuis, on va dire, 2009 à peu près, et qui s'est accéléré. Et là, effectivement, ces derniers mois, l'accélération a été vraiment très, très remarquée. Il serait remarquable.
Dans les questions liées à ce référendum du 16 avril, il y aurait la suppression du rôle du Premier ministre, qui ferait du chef de l'État le seul chef de l'exécutif. Le président aurait le contrôle de la justice et de la Cour constitutionnelle. Il pourrait gouverner par décret. Le président en place, donc Erdogan, pourrait rester au pouvoir jusqu'en 2029. Alors, comme vous nous dites justement que tout n'était pas écrit d'avance, qu'il faut se méfier de la réécriture a posteriori de l'histoire, sous quelle influence, sous quelle pression lui-même s'est-il transformé? Il y a eu évidemment le coup d'État de l'été dernier.
Mais effectivement, le coup d'État, dans tous les cas, a justifié sa répression accrue, mais on voit qu'effectivement, cette dérive autoritaire est à l'œuvre depuis plusieurs années et est de son fait. Effectivement, il y a plusieurs problèmes extérieurs qui peuvent expliquer un durcissement de sa politique, mais de toute façon c'est une décision totalement assumée de sa part, et effectivement, comme dans tout régime autoritaire, il y a une volonté, une personne qui à un moment donné concentre de plus en plus les pouvoirs, et il y a une volonté de concentrer tous les pouvoirs, et ça c'est sa décision à lui et à personne d'autre.
Est-ce qu'on peut dire que le président Erdogan, leur marchand, joue le soutien des populismes, par exemple, quand il entretient une tension là avec les Pays-Bas ayant refusé l'atterrissage ce week-end du ministre des Affaires étrangères turc, qu'il félicite très ouvertement la France pour avoir accepté la venue du même ministre pour juste dans le cadre de la campagne du référendum. Quand il fait ce genre de déclaration, est-ce qu'on peut dire qu'il crée volontairement la tension dans les pays cités?
Ah oui, vous l'avez dit, il crée volontairement la tension. La crise est entretenue par Recep Tayyip Erdogan dans le cadre de sa campagne en Turquie. La crise diplomatique actuelle entre la Turquie et l'Union européenne et plusieurs pays a vocation à renforcer son électorat, à attiser le sentiment nationaliste de son électorat. En Turquie, une partie de la population est très sensible à la rhétorique de l'ennemi extérieur qui cherche à, à affaiblir le pays. Donc là, on est cette crise, on est un exemple, un parfait exemple. Donc là, on peut s'attendre à des jours et des jours d'instrumentalisation de la crise entre la Turquie et l'Union européenne à des fins intérieures.
À des fins intérieures, et en même temps, on sait qu'aux Pays-Bas, demain, ce sont les élections législatives et que les populistes d'extrême droite sont bien placés dans les sondages. Merci beaucoup, Laure Marchand, d'avoir répondu à nos questions autour de l'actualité turque. Merci à vous.
Merci, bonne journée.
Il est 7h30, les infos, Thierry Paret.
Et une nouvelle casserole, peut-être, pour François Fillon. Alors, elle est en lien avec le Penelope Gate, hein, une affaire pour laquelle le candidat de la droite pourrait être mis en examen demain, le Penelope Gate. On a appris que ses enfants auraient reversé une grosse partie de leur salaire sur le compte joint de leurs parents lorsqu'ils étaient attachés parlementaires pour leur père au Sénat. Exemple, sur les 46 000 euros nets touchés par Marie Fillon comme attachée parlementaire de son père, celle-ci aurait rétrocédé environ 33 000 euros sur le compte joint de ses parents, soit plus de 70% de ses rémunérations. C'est la fille de François Fillon elle-même, hein, qui, lors de son audition du 9 février dernier, a spontanément révélé l'existence de ces virements à la police judiciaire. À propos des costumes de luxe de François Fillon offerts par un ami, Ferdinand Mélin-Soukramanien, déontologue de l'Assemblée nationale, a annoncé, lui, s'être saisi de l'affaire pour rechercher s'il y a eu un manquement ou pas au code de déontologie des députés. Alors, malgré tout, François Fillon, ce n'est pas que des affaires, c'est aussi un programme, et il tente toujours de relancer sa campagne. Le candidat de la droite a exposé hier, lors d'une conférence de presse, son projet pour la France, en confirmant son intention de mettre fin aux 35 heures et à l'ISF, l'impôt sur la fortune, tout en supprimant 500 000 postes de fonctionnaires. Le candidat entend également s'atteler, en cas d'élection, à l'augmentation de la TVA, à la refonte du Code du travail et à la réforme de l'assurance maladie. Les candidats à la primaire socialiste s'étaient tous engagés à soutenir le vainqueur, une promesse qui ne sera peut-être pas tenue par Manuel Valls. Ce dernier s'apprêterait à s'exprimer pour apporter son soutien à Emmanuel Macron. C'est ce que déclare ce matin le Parisien, et ce, dès le premier tour. L'ancien Premier ministre pourrait s'exprimer avant le 23 avril, selon le journal. On va quand même noter que et l'intéressé et ses proches ont démenti cette information. Après le référendum britannique en faveur du Brexit, les députés britanniques ont approuvé la loi autorisant le gouvernement à activer l'article 50 du traité de Lisbonne, fameux article. C'est donc, l'Angleterre ouvre donc la porte à la sortie de l'Europe. On notera que la première ministre écossaise a, elle, annoncé hier la tenue, elle souhaiterait en tout cas faire un nouveau référendum pour l'indépendance de l'Écosse, ce qui n'est pas du tout du goût de la première ministre britannique Theresa May. Les tensions avec la Turquie, elle ne retombe pas vraiment. Rappel des faits, rapidement, alors que se profile un référendum le 16 avril en Turquie destiné à renforcer les pouvoirs du président Erdogan, le ministre des Affaires étrangères turc tente de multiplier les meetings dans plusieurs pays européens pour convaincre la diaspora de voter oui à ce référendum. Alors que la Suisse, l'Allemagne et les Pays-Bas ont refusé d'accueillir de telles réunions politiques, la France, pour sa part, a autorisé le ministre turc des Affaires étrangères à participer à un meeting pro-Erdogan à Metz, c'était dimanche, au prétexte qu'il n'y avait pas de troubles à l'ordre public. Depuis les événements du week-end, Ankara ne cesse de mettre de l'huile sur le feu en qualifiant par exemple les Pays-Bas de capitale du fascisme, des propos inacceptables selon le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Marc Ayrault. On notera que hier soir, les premières sanctions turques vis-à-vis des Pays-Bas sont tombées. La Turquie annonce la suspension des rencontres bilatérales avec les ministres et hauts dirigeants néerlandais. L'ambassadeur néerlandais à Ankara a été déclaré persona non grata. Et puis le gouvernement d'Ankara va demander au Parlement turc de dénoncer le traité d'amitié unissant la Turquie et les Pays-Bas. Et puis la balle est dans le camp de la Fédération française de rugby, c'est à la FFR de valider l'existence des clubs professionnels dans le top 14. C'est donc la FFR qui va décider du sort d'un nouveau club né de la fusion du Stade français et du Racing 92. C'est un gros coup de tonnerre dans le rugby français qui a été donc annoncé hier et qui a pris tout le monde au dépourvu puisque tout le monde l'a appris par la presse.
C'était assez complet, j'ai trouvé. Je ne sais pas si quelqu'un a envie de faire le bilan du journal.
C'était top.
Il manquait un truc important quand même.
Il manquait quoi?
La météo. C'est la journée de Pi aujourd'hui aussi, tiens.
C'est quoi?
Avant la météo, la journée de Pi 3/14.
Ah ouais.
Parce que
tu le connais Pi?
Parce que c'est 3/14 la date du jour si on tient compte des anglo-saxons.
Ah oui.
Voilà.
D'accord.
On s'envoie du steak, hein. Lai lo lai lo lai lai lo lai lai lo lai. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui pour la météo, figurez-vous que il fait des nuages noirs sur la Manche et nuages et soleil sur toute la France. Les températures seront de, à Montpellier, de 7 à 21, à Limoges de 4 à 17, Clermont-Ferrand de 2 à 16, Bordeaux de 5 à 19, Avignon de 7 à 20, à Tours de 5 à 16, à Paris de 2 à 16, attention, Istanbul de 6 à 7. Lai lo lai lo lai lo lai lai lo lai lai lo lai lai lo lai lo lai lo lai lai lo lai lai lo lai.
Les meilleures météos de Tito, bientôt en DVD.
Et qu'est-ce que vous pensez de ce Lie Low Lie, François?
Ben, il est magnifique, il est joyeux et matinal.
Ah bon?
Non, non, pas vous plus. Le trouvez pourri?
Non, je le trouve un peu répétitif.
Merci, François, voilà. Merci. Ah, répétitif. Oui, ah ben, oui, mais c'est-à-dire, il faut passer le cap des 150 pour commencer à savourer ouais. vraiment
après,
le truc.
Après, ça sera nanana.
D'accord, ok. Merci.
Jackson, dans la rue.
Je suis sur le bord d'une place, je vous dis pas laquelle, vous allez me dire vers qui je vais aller. Je vous décris ce que je vois dans le ciel. Il y a à peu près, 7 ou 8 lignes d'avions. Vous savez, ces lignes d'avions qui se dessinent. Ça crée carrément un espèce de triangle énorme. Il y a un avion qui est au milieu. Il y a le bus 127 qui attend. Il y a 3 personnes qui sont ensemble sur un téléphone portable. Un monsieur avec des lunettes. Un monsieur qui ramasse des mégots avec un casque bleu sur les oreilles.
Le monsieur avec des lunettes.
Le monsieur avec des lunettes.
Oui.
Oui. Bonjour, monsieur.
Bonjour.
Vous savez sur quel pied danser, vous?
Je danse sur les deux, moi. C'est plus équilibré.
C'est plus stable.
Je vais me faire tomber. Voilà, exactement.
Pourquoi vous faites un geste avec votre nez?
C'est votre micro que vous mettez dans le nez.
Ah, voilà. Vous dansez pas, en fait, vous restez stable.
Ça dépend des jours.
Vous pensez qu'il vaut mieux faire comment, là, en ce moment?
Il faut être bien équilibré.
Pas de choix, pas de...
Ah si, mais il faut être équilibré. Il faut réfléchir.
Bien en place. Et vous, madame?
Moi, j'ai mes lunettes pas sur le nez, mais sur la tête. C'est impressionnant, votre micro, là.
Sur quel pied vous dansez?
Je ne danse pas.
Non. Voilà, donc on a des petits groupes qui dansent pas, des groupes qui dansent.
Vous êtes sur quelle place, Jacques?
Ah, mais je ne vous le dirai pas. Vous allez deviner. Mais
j'ai l'impression que vous êtes encore fourré à New York, mon vieux.
Non, c'est pas vrai. Les immeubles sont assez bas. Par contre, j'aimerais bien savoir ce qu'il écoute dans ses écouteurs, lui. Bonjour, monsieur.
Bonjour.
Vous avez un casque bleu magnifique.
Oui, merci.
Vous écoutez quoi dedans?
J'écoute des cantiques. C'est des chants religieux de Dieu.
En ramassant les mégots?
En ramassant les mégots. Ça me bénit, je suis serviteur de Dieu en même temps. Je suis balayeur, mais je suis aussi serviteur de Dieu. Prédicateur, quoi. Je prêche la parole de Dieu.
Ah bon?
Lequel Dieu?
Quel Dieu, monsieur?
Le Dieu de tout le monde, le Dieu qui sauve, le Dieu qui guérit, le Dieu qui bénit, le Dieu de l'humanité complète, celui qui a racheté tout le monde de tous ses péchés.
Il est dans quel coin, là?
Hein? Il a dit là où c'est, la parole de Dieu va dire dans la Bible, il y a marqué là où c'est que 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est au milieu de nous, il est parmi nous, il est là, il est présent avec nous.
D'accord. au revoir.
Au revoir.
On ne sait pas trop sur quel pied danser après.
Oui.
Après
moi, je trouve qu'il a bien, ce monsieur a bien dressé le portrait de Jack Souvent. C'est-à-dire,
exactement.
Dès que nous sommes un peu rassemblés, il est là au milieu de nous, Jack Souvent.
Il est partout, il est
et nous rachète.
Il est la parole, c'est Jack Souvent.
C'est étonnant quand même. Ouais. Et il continue avec son. Il a un manteau fluo et il pousse sa petite charrette en écoutant des cantiques.
Mais c'est du bénévolat qu'il fait ou c'est quelqu'un de la mairie, de la voirie?
Rien. Je ne sais pas. C'est quelqu'un de la mairie.
Ah, d'accord.
Jack,
de la mairie de la voirie. Bon. Je continue. Hein.
Oui, on vous laisse enquêter, on vous retrouve tout à l'heure.
Et donnez-nous le long de la place tout à l'heure quand même. Merci.
Oui, à tout à l'heure.
Gros bisous.
7h, 9h, plus près de toi.
À 8h moins le quart sur Nova, le trio anglais Fujiya et Miyagi, c'était Serotonin Rushes. Il est temps de révéler les secrets de l'Assemblée nationale.
Exactement. C'est un petit peu ça l'angle de ce livre, J'irai dormir à l'Assemblée, sous-titre Les secrets du Palais Bourbon, ça paraît chez Grasset. Et c'est signé Hélène Becmézian, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être là pour parler de ce livre qui est paru il y a quelques jours seulement. C'est un livre de revoir en fait, ce livre J'irai dormir à l'Assemblée, parce que vous avez couvert pour Le Monde les questions parlementaires pendant 4 ans et demi, et maintenant vous occupez d'autre chose. Vous êtes rédactrice en chef adjointe du Monde.fr. C'était une manière de dire au revoir à l'Assemblée nationale.
C'est une forme d'épilogue, oui, de point d'orgue à 4 ans et quelques au sein de l'Assemblée nationale, où je raconte un petit peu où moi-même j'ai découvert la maison en arrivant parce que je connaissais pas très bien le journalisme politique, encore moins l'Assemblée nationale. Et donc j'ai découvert petit à petit ce milieu et je pense que ce livre est un peu, comme moi je l'ai découvert. Je vous invite à venir découvrir cette maison qui révèle encore, qui garde encore pas mal de secrets.
Oui, il y a pas mal de secrets, vous en révélez certains. En tout cas, disons un mode d'emploi qui n'est pas partagé volontiers. Plutôt que de secrets, on peut parler de ça comme ça. Et c'est une des premières choses que vous dites dans ce livre, c'est un lieu d'opacité.
C'est un lieu d'opacité, même physiquement. C'est vrai que depuis quelques années, ça va mieux, mais il a fallu attendre quand même la fin des années 90 pour que les comptes rendus des débats soient disponibles d'abord sur Internet, puis à la télévision. ça, quand on sait que voilà, quand la Ve République commence en 58, il a fallu quand même du temps pour que toute cette transparence se mette en place. Il a fallu attendre 2014 pour qu'on ait des lois sur qui s'appellent d'ailleurs transparence de la vie publique, sur les déclarations d'intérêts, de patrimoine des députés. Voilà, il y a encore beaucoup de choses. Le travail des commissions qui est resté dans un huis clos total pendant très longtemps. Il y a petit à petit le voile se lève. Mais c'est pas encore terminé.
Oui, le voile se lève et vous le dites, c'est grâce aux citoyens plutôt que aux politiques eux-mêmes. C'est la pression de certains citoyens curieux qui ont le droit qui estiment avoir le droit à juste titre de réclamer cette transparence.
Oui, oui, je donne plusieurs exemples dans mon livre. Il y a ce monsieur qui s'appelle Monsieur Le Breton, qui est un professeur de mathématiques, qui est vraiment, on peut le dire, un obsédé sur les questions de transparence. C'est celui qui a bataillé tout seul à coup de référés administratifs, de tribunal, pour obtenir. Alors lui, il a obtenu la transparence sur ce qu'on appelle la réserve parlementaire, qui est, je fais brièvement, une enveloppe mise à disposition des députés pour qu'ils aident à financer des projets. On parle de centaines de millions d'euros par an. Donc, grâce à ce monsieur, maintenant, on en sait un petit peu plus. Il y a un collectif qui s'appelle Regards Citoyens aussi, qui sont des jeunes plutôt informaticiens à la base, qui militent pour plus de transparence dans les débats, plus de transparence sur la présence des députés en commission, en séance. Donc, c'est venu de citoyens. Et petit à petit, la loi s'est adaptée après coup. C'est venu aussi de scandales, évidemment, le scandale Cahuzac. C'est ça qui a permis que la loi, les législateurs se réveillent en se disant il faut qu'on agisse sur ce point-là. Mais c'est vrai que ça vient rarement spontanément de la maison elle-même.
Ouais. Voilà, et cette absence de transparence initiale, on peut la mettre en lien avec un chiffre que vous rappelez, 44% d'abstention en 2012 pour les législatives. Donc effectivement, quand une maison est opaque, elle motive peut-être moins d'intérêt de la part de ceux qui votent.
Oui, oui, bien sûr. C'est sûr qu'on voit qu'il y a un désintérêt qui est lié à l'opacité, puis qui est lié aussi au fait que je pense que les gens ont à juste titre l'impression de voter pour quelque chose une fois tous les 5 ans et après de plus du tout avoir la main dessus, de plus même être légitime tellement à demander des comptes. On voit bien que, je reviens sur cette histoire de loi sur la transparence de la vie publique, quand ça a été posé sur la table, la première réaction des députés, ça a été une réaction de protection, de mais qu'est-ce qu'on nous veut, pourquoi on nous cherche des noises, mais laissez-nous travailler tranquille. Et on voit qu'aujourd'hui encore, quand on demande de la transparence, on a l'impression de déranger, de pas être à notre place, alors que c'est le rôle premier du citoyen de demander de la transparence à ses élus, à ses représentants.
Et vous racontez, Hélène Bekmézian, même que une des premières fois où vous avez bougé, où vous avez voulu regarder à l'intérieur de l'Assemblée pendant une séance, vous aviez un téléphone dans la main et les députés ont cru que vous les preniez en photo. En fait, on vous dit, les députés, en fait, ici, ils sont chez eux.
Exactement. C'est ce qu'on m'a dit assez tôt au début. C'est ce qu'un huissier m'a dit. Ici, tu comprends, c'est la maison des députés. Et en fait, c'est vrai que c'est très paradoxal parce qu'on aurait naïvement plutôt tendance à penser que c'est la maison du peuple, des gens, que c'est les citoyens qui ont la primauté, alors qu'en fait non, c'est les députés. Et on voit bien, il y a effectivement tout un protocole qui fait que c'est une des premières choses que je dis dans le livre. Les députés, ce sont les seuls à l'Assemblée nationale qui peuvent se promener sans badge, sans identification d'aucune sorte. C'est pas le cas des huissiers, c'est pas le cas des assistants parlementaires, c'est pas le cas des administrateurs, c'est encore moins le cas des journalistes. Et eux, on a l'impression que ce sont les seuls qui jouissent d'une forme de liberté de mouvement total, de liberté d'action, de liberté de parole.
Vous êtes à la fois dans ce livre assez admiratif du travail des députés, du travail de certains députés sur le terrain, vous le dites aussi. Et en même temps, vous dites, sous la Ve République, un député, ça ne sert à rien.
Oui, alors un député de l'opposition, ça sert vraiment à rien. Un député de la majorité, ça sert pas à grand chose. Ça sert
nuance.
C'est-à-dire qu'il y a toujours moyen, quand on est dans la majorité, de faire bouger, mais alors vraiment des tout petites choses. C'est une énorme machine législative. Il faut arriver à se faufiler dans les interstices, à avoir le courage, la ténacité de poser son amendement, de revenir parce qu'on s'est fait retoquer par le gouvernement, de revenir une deuxième fois, une troisième fois, de pas lâcher le morceau. Ça demande vraiment de l'énergie. Et on voit bien, d'ailleurs, il y a beaucoup de ce qu'on appelle de primo-députés, de députés élus pour la première fois en 2012. Il y en a pas beaucoup, mais il y en a un nombre significatif qui ne se représente pas, parce que je pense qu'ils se disent que le jeu n'en vaut pas la chandelle.
Hélène Bekmézian, c'est quoi un député scooter ?
Un député scooter, c'est effectivement l'expression utilisée par Jean-Christophe Cambadélis pour tous ces jeunes députés socialistes qui sont arrivés. C'est les députés scooters, ceux qui remontent la file par le côté, qui ne s'arrêtent pas au feu rouge, qui grillent toutes les voitures par la voie du bus.
Ils ne respectent pas les aînés, c'est un peu ça ?
Ben, ils respectent pas, et puis c'est venu de quelque chose de plutôt frais, c'est de dire, nous, on va pas forcément faire comme c'était avant, on va pas prendre la file, on va pas attendre notre tour, et on va passer un peu devant tout le monde, ce qui est mal passé auprès de certains vieux briscards de l'Assemblée nationale qui l'ont assez mal vécu.
Mais ce qui contribue à ouvrir aussi un peu soulever un peu le couvercle, à faire circuler un peu d'air.
Oui, c'est sûr que quand on a plein de députés jeunes qui sont quand même d'une nouvelle génération, même s'il faut pas se tromper, il y a des jeunes qui ont aussi des habitudes de vieux et qui sont pas forcément les plus modernes. Mais de fait, il y a un renouvellement quand il y a des vieux élus de 70 ans qui laissent la place à des élus de 35 ans. Forcément, ça change les pratiques et ça change un peu les mœurs. Ouais.
Juste une question un peu plus pratique. Il paraît qu'il y a une très bonne cantine là-bas.
Une buvette.
Une buvette, une cantine avec de très grands vins, il paraît.
Mais il paraît.
Et que certains députés, même de l'opposition, entre eux, se réconcilient autour de la table.
Oui.
Et arrivent très avinés pendant les questions au gouvernement. C'est pour ça qu'il y a eu des débordements, des cris et des gens se lâchent un peu sur des députés très féminins où on entend des noms d'oiseaux et des choses incroyables.
Oui, plus précisément des cris de poule, en l'occurrence. Poules, voilà. Alors ça, je peux en témoigner effectivement la deuxième partie. J'ai moi-même constaté en deuxième partie de soirée des débats qui commencent à 21h30. Certains députés un petit peu plus volubiles qu'ils ne l'étaient avant la pause dîner. En revanche, je suis désolée, mais la buvette des députés, c'est une des choses les mieux gardées de l'Assemblée nationale. C'est absolument interdit d'entrer à tout journaliste. Ah ouais. On raconte que c'est parce que des journalistes y auraient rapporté des propos tenus justement par des députés un petit peu trop avinés. Donc c'est une des choses dans lesquelles vraiment on ne peut pas pénétrer la buvette des députés. Il y a la buvette des journalistes qui est différente.
Oui, mais
je peux vous garantir
savoir.
Qu'il n'y a ni grand vin, ni grand repas. Et moi aussi j'aimerais bien savoir, mais je n'ai pas encore réussi à me faufiler dans ce lieu vraiment un des plus jalousement gardés.
Oui, c'est vraiment une géographie du Palais Bourbon de l'Assemblée nationale que vous faites dans ce livre-là. J'irai dormir à l'Assemblée, Hélène Beck-Maison, qui paraît chez Grasset. Vous nous offrez aussi un mode d'emploi du lobbying, comment ça fonctionnait, la question des groupes de déj, voilà, pour discuter à plusieurs journalistes avec un ou plusieurs députés, la question du off, ça c'est une question journalistique. Vous racontez l'histoire d'une journaliste qui était à 93 ans encore, qui venait régulièrement à l'Assemblée nationale, c'est une drogue. Vous avez terminé.
Oui, moi je crois que j'ai eu la chance de pas tomber complètement accro, mais c'est vrai que c'est quelque chose. Alors vous parlez du cas de Danielle Brehm, qui est une journaliste historique. À l'époque, elle a commencé à l'ORTF, c'est la première qui a fait rentrer les télés à l'Assemblée nationale. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de cas comme ça de journalistes parlementaires, toujours en activité ou pas, et qui sont là depuis très longtemps. Je prends comme ça le cas de la correspondante du Figaro, qui est là depuis le début des années 80, le correspondant de Reuters, qui est là aussi à peu près depuis la même période, et avant ça, il était assistant parlementaire. Donc, c'est eux-mêmes qui me disent, mais Hélène, je peux pas décrocher, tu comprends pas, c'est une drogue, je suis accro. C'est vrai que c'est aussi, il faut dire que c'est une maison très confortable, où quand même on rencontre des gens très intelligents, on assiste à des débats vraiment très intéressants, on comprend qu'on s'y sente bien finalement et qu'on n'arrive pas à vouloir la quitter.
J'irai dormir à l'Assemblée, c'est paru chez Grasset. Merci Hélène Beck-Maison.
Merci à vous.
Dans un instant, notre nouvelle rubrique, un enfant, un texte de loi.
Gabriel, donc je disais, le chien, il est à toi là ?
Oui.
On a un chien dans le plateau. Comment il s'appelle ?
Muffin.
Muffin. Il a quel âge ?
Il a 8 mois.
C'est la première fois que tu as un animal ?
Non, c'est la deuxième fois quand j'étais encore... J'étais tout petit, j'avais un autre chien qui s'appelait Safran, mais par contre, il est mort.
Ah, il est mort. Ça t'a été triste ?
Oui, j'ai été triste.
Ben là, tu vois, tu vas être pas heureux parce qu'il y a Muffin qui il est très très mignon, celui-là. C'est quoi comme race ?
C'est un Jack Russell australien.
Jack Russell australien, c'est nerveux, un Jack Russell. Hein. Tu savais ça ?
Non.
C'est un chien qui chasse, il faut savoir le dire, c'est difficile à dire. C'est un chien qui monte sur les qui monte sur les ours pour les attaquer. Les gens ne savent pas trop, mais moi je sais qu'un Jack. Et là, tu es en quelle classe, là ?
CE1.
CE1. Et ta maîtresse, elle est comment ?
Elle est gentille.
Elle s'appelle comment ? Je ne connais pas le nom de ta maîtresse.
À la rentrée, la première fois que je suis allée dans sa classe, elle nous l'a dit, mais là, je ne me souviens plus.
Oui, c'est pas grave. Tu crois qu'elle t'écoute, là ? Non.
Je ne sais pas.
Non, tu sais pas.
Oui, elle est là, Atmen, bonjour à tous.
Bonjour.
Je suis avec la maîtresse de ce petit garçon.
Oui.
Qui est là.
Oui.
Donc elle est vraiment intéressée de savoir qui l'a oublié le prénom. Donc évidemment, il va y avoir une petite vengeance.
Une petite sanction, oui.
Une petite sanction, qu'est-ce que c'est dommage de pratiquer la délation. Je vous la passe, elle va vous dire quelque chose.
C'est ta maîtresse.
Voilà. Voilà, c'est sa maîtresse qui vient de lui dire en zoulou, puisque c'est sa maîtresse sud-africaine qu'elle voudrait écouter le poème maintenant. Parce qu'on a tous, c'est bien d'avoir des professeurs dans chaque pays du monde.
Tu as reconnu ta maîtresse ou pas ?
Non.
Ah bon, c'est bien ce que je pensais, c'est ce que tout le monde pense aussi.
Bon, si on vous écoute aussi, il est à toute Johannesburg, attend le poème.
Alors tout le monde t'écoute, c'est à toi.
Je lis le poème ?
Non, tu ne le lis pas, c'est une anti-sèche. Vas-y mon petit Gabriel. Vas-y mon Gabriel. Mais oui.
Mais oui, je suis une girafe, m'a raconté la tour Eiffel. Et si ma tête est dans le ciel, c'est pour mieux brouter les nuages. Car elles me rendent éternelle. J'ai quatre pieds bien assis dans une courbe de la Seine. On ne s'ennuie pas à Paris. Les femmes comme des phalènes, les hommes comme des fourmis, glissent sans fin entre mes jambes. Et les plus fous, les plus ingrats, montent et descendent le long de mon cou comme des frelons. La nuit, je lèche les étoiles, et si l'on m'aperçoit de loin, c'est que très souvent, j'en avale une sans avoir l'air de rien.
Oh là là, bravo.
Bravo.
Tu parlais comme ça, tu l'as dit. Oui.
Je voudrais que vous refassiez travailler Gabriel le début. Et oui, je suis une girafe, ça doit être beaucoup
voilà,
plus
alors,
joyeux.
Alors, il a raison, tu vas attaquer. Mais oui, je suis une girafe. Vas-y, reprends-le.
Comme
mais
si ça te faisait marrer.
Comme
mais
si ça te faisait
mais
rire.
Oui, je suis une girafe.
Mais oui, je suis une girafe, voilà.
Mais oui, je suis une girafe, m'a raconté la tour Eiffel. Et
il faut qu'elle fasse marrer, recommencez juste le début, le reste était très bien.
Mais oui, je suis une girafe, m'a raconté la tour Eiffel.
Gabriel, mon chéri, dis juste, mais oui, je suis une girafe.
Mais oui, je suis une girafe.
Mais voilà, magnifique, voilà. Et c'est pour mieux brouter les nuages.
Comme ça. Génial, continue.
Continue.
M'a raconté la tour Eiffel, et si ma tête
non, est... Non, comme tu l'appelais, Gabriel. Continue pareil. Mais oui, je suis une girafe, m'a raconté la tour Eiffel. Vas-y, mon chéri.
Mais oui, je suis une girafe, m'a raconté la tour Eiffel. Et si ma tête est dans le ciel, c'est pour mieux brouter.
Et continue, il faut continuer ouais. Pareil. C'est génial. Et si continue joyeux, tout. Tout est joyeux dans ce problème.
Car elle me rend éternelle, j'ai quatre pieds bien assis dans une courbe de
mais
la Seine.
Mais oui, t'as raison, vas-y mon pote.
Monsieur, vous nous faites peur, monsieur, vous nous faites peur.
On est une girafe, on se fout. On
veut entendre la maîtresse. Édouard, on veut entendre la maîtresse. Elle est partie.
La maîtresse, elle est là. Elle est partie. C'était Tammy qui est l'assistante sur le film. Elle parle juste zoulou et anglais. Comme vous ne parlez pas anglais, j'essaie de vous parler en zoulou. Et écoutez, c'est formidable. On est tous des girafes. C'est génial, Gabriel. Tu es un lion aussi. Tu es aussi un écureuil, un léopard et une marmotte.
Édouard, je peux avoir la même chose que vous avez bu là, il y a 5 minutes.
C'est un café, et c'est le plaisir de vous retrouver parce que
mais
je
oui.
Suis en pleine brousse.
Ben nous aussi.
Je suis dans la brousse sud-africaine avec des vraies girafes et je suis ravi d'en entendre une parler parce qu'il n'y a que les vôtres qui parlent.
Merci à vous, Édouard.
Merci allez. Mon champion. Oh, Gabriel, t'as gagné.
Tu sais que c'est une jolie chanson
Gabriel.
De.
Gabriel. Oui, tu es une girafe, et c'est ça.
Voilà, on voulait l'entendre.
Salut les gars, coupez-moi.
Merci voilà, Gabriel, très vite. Merci Edouard. Est-ce qu'on a envie d'écouter les infos dans la brousse? Oui.
Non.
Si, on va les écouter.
Est-ce que c'est bien oxygéné l'Afrique du Sud?
Ça m'a l'air, oui.
Je pose la question quand même. Le Parlement britannique autorise Theresa May à déclencher le Brexit. Les députés britanniques ont approuvé la loi autorisant le gouvernement à activer le fameux article 50 du traité de Lisbonne. Alors ceci dit, même si le processus est officiellement enclenché, le départ de l'Angleterre de l'Europe n'interviendra pas avant au moins 2 ans. Il y en a une qui perd pas le nord. En tout cas, c'est la première ministre écossaise qui a annoncé d'ores et déjà son souhait d'organiser un nouveau référendum sur l'indépendance de l'Écosse, ce qui n'est pas du goût des Britanniques d'ailleurs. Les premières sanctions turques vis-à-vis des Pays-Bas sont tombées hier soir. La Turquie annonce la suspension des rencontres bilatérales avec les ministres et hauts dirigeants néerlandais. L'ambassadeur néerlandais à Ankara a été déclaré persona non grata. Le gouvernement d'Ankara va demander au Parlement turc de dénoncer le traité d'amitié unissant la Turquie et les Pays-Bas. Et puis enfin, la Turquie entend ouvrir une enquête sur les événements de ces derniers jours. Rappel des faits, alors que se profile un référendum le 16 avril prochain en Turquie destiné à renforcer les pouvoirs du président Erdogan, le ministre des Affaires étrangères turc tente de multiplier, lui, les meetings dans plusieurs pays européens pour convaincre la diaspora de voter oui. La Suisse, l'Allemagne et les Pays-Bas ont refusé d'accueillir de telles réunions politiques, mais la France, pour sa part, a autorisé ce ministre turc des Affaires étrangères à participer à un meeting pro-Erdogan. C'était à Metz dimanche, au prétexte qu'il n'y avait pas de trouble à l'ordre public. Acharnement diront certains, justice diront d'autres, alors que François Fillon pourrait être mis en examen demain dans le cadre du Penelope Gate. On a appris que ses enfants, toujours en lien avec cette affaire, auraient reversé une grosse partie de leur salaire sur le compte joint de leurs parents lorsqu'ils étaient attachés parlementaires pour leur père au Sénat. Exemple, sur les 46 000 euros nets touchés par Marie Fillon comme attachée parlementaire de son père, celle-ci aurait rétrocédé environ 33 000 euros sur le compte joint de ses parents, soit plus de 70% de ses rémunérations. C'est la fille de François Fillon elle-même qui, lors de son audition le 9 février dernier, a spontanément révélé l'existence de ces virements à la police judiciaire, les justifiant par le remboursement de son mariage. À propos des costumes de luxe de François Fillon, offerts par un ami, Ferdinand Mélin Soukramanien, déontologue de l'Assemblée nationale, a lui annoncé être saisi de l'affaire pour rechercher s'il y a eu un manquement ou pas au code de déontologie des députés. Malgré tout, François Fillon tente toujours de relancer sa campagne. Le candidat de la droite a exposé hier, lors d'une conférence de presse, son projet pour la France, en confirmant son intention de mettre fin aux 35 heures et à l'ISF, l'impôt sur la fortune, tout en supprimant 500 000 postes de fonctionnaires. Le candidat entend également s'atteler, en cas d'élection, à l'augmentation de la TVA, à la refonte du code du travail ou encore à la réforme de l'assurance maladie. Les candidats à la primaire socialiste s'étaient tous engagés à soutenir le vainqueur, une promesse qui ne sera peut-être pas tenue par Manuel Valls. Selon le Parisien, ce dernier s'apprêterait à s'exprimer pour apporter son soutien à Emmanuel Macron, et ce dès le premier tour. L'ancien Premier ministre, lui, dément. L'annonce de la fusion prochaine du Stade français et du Racing 92 a pris tout le monde de court, les joueurs comme la Fédération française de rugby, comme la mairie de Paris, comme les supporters aussi d'ailleurs. Une fusion qui pose beaucoup de questions. Quel stade pour accueillir cette équipe qui aura donc fusionné? Qui pour la diriger? Quel nom pour cette équipe?
Qui pour jouer?
Quel joueur? Voilà, c'est ça, avec quel joueur exactement?
Et quel nom?
Etc. Pour le président de Toulon, qui s'appelle Mourad Boudjelal, que les rugbymans connaissent très bien, oui. Eh bien c'est un rachat plutôt qu'une fusion. Voilà, en tennis, Gaël Monfils a battu Isner et s'est qualifié pour les huitièmes de finale du tournoi californien d'Indian Wells.
Le stade 92, c'est pas mal comme nom.
Allez, c'est voté, c'est adopté. Merci, Edmond.
Non, qu'est-ce que vous en pensez, François, le stade 92?
Ouais, moi, je rajouterais une petite unité. Je
mettrais
le stade 93.
Ah ouais, d'accord.
Okay. Bon, on n'en parle pas assez. Le stade du 9-3.
Comment est-ce que vous voyez cette deuxième heure de plus près de toi, François Rollin? Est-ce que vous avez des plans, des stratégies?
Je la vois placée sous le signe de l'innovation et de la gaieté.
Alors,
voilà, j'y vais cash.
L'innovation sans aucun problème, mais la gaieté.
La gaieté,
compliqué.
La gaieté, si. Bah, regardez la bobine de Thomas Baumgartner. Est-ce que c'est pas quelque chose qui vous rend heureux?
Oui, Edouard.
Oui, j'ai le droit d'intervenir, bordel de merde.
Ben oui. Déjà, paye ta facture de téléphone.
Je voudrais qu'on revienne. Ça fait 7 minutes que je vous appelle en PCV. J'ai les flics autour de moi. Si je peux dire, ça rigole pas, les flics. Je suis là dans une région d'Afrique du Sud, on rigole pas avec la police. Non, je voudrais faire réagir François Rollin sur plusieurs aspects des informations. Oui. Bon, déjà, le pacte d'amitié hollando-turc, c'est un très beau document que j'aurais aimé voir. Oui. Je regrette qu'on y renonce. Vous y avez eu accès, François?
Je ne l'ai pas lu intégralement. Il y avait des mots assez doux et effectivement, je crois qu'il passe à la trappe avec un fracas retentissant.
Et quant au mariage de la fille Fillon, qu'elle a remboursé puisque ses parents lui avaient avancé l'argent, oui. C'est donc, je sais que vous y étiez, François. C'était pas un mariage non plus. C'était bien, mais c'était pas.
Oui, c'est-à-dire, en fait, détrompez-vous, Edouard, disons, les dépenses n'étaient pas apparentes, elles ont été faites dans la discrétion. Mais ça a bien coûté ça, ça a coûté dans les 33 000 euros, ça a coûté ça. Ça se voyait pas sur le buffet, mais parce qu'on n'est pas démonstratif, ça je vous l'avais dit une fois à l'antenne. Chez les filles, on n'est pas démonstratif, donc si vous voulez, ce sont des petites choses qui ont coûté les 33 000. C'est pas le camembert, parce qu'il y avait un camembert sur le buffet.
D'accord, mais pour la nourriture, j'imagine bien, mais au niveau de... sur un orchestre local, sur un DJ de musique de jeunes, on était sur...
Non, oui, on était sur un CD qui était passé sur un hip-hopper, comment ça s'appelle le machin?
Un DJ, non?
Non, le truc qu'on a sur l'épaule, là.
Un ghetto blaster.
Voilà. Mais qui était un ghetto blaster collector, vintage, hyper collector. Donc lui, il a été loué à un ami de la famille Fillon pour 13 000 euros, vous voyez. Ça monte vite,
La venue au moment du gâteau de mariage de Maître Gims, a-t-elle été tarifée ou est-ce que c'est un cadeau de Maître Gims lui-même?
Non, c'est un cadeau de Maître Gims, ça on peut pas le compter, puisque la police a interrogé Maître Gims et il a bien affirmé qu'il n'avait rien touché à part effectivement quelques petits fours et un Pepsi Light.
Oui. Il a chanté gratuitement, je sais qu'il a parlé de son ralliement à Emmanuel Macron qui a refusé.
Oui. Écoutez, ne gâchons pas l'ambiance, c'était un beau mariage. La nuit de noces a été formidable. Alors après, vous voyez, aller chercher si jamais il y aurait pas machin une dépense qui éplucher les factures, ça ne nous ressemble pas, Edouard. Hein, ça ne nous ressemble
non,
pas.
Non, mais est-ce que ça fait pas partie de cette aigreur française contre laquelle vous vous battez depuis tant d'années, François?
Ben, voilà. Voilà. C'est-à-dire qu'au lieu de voir le verre aux trois quarts plein, les gens voient ce verre quasiment vide. C'est, je les comprends, mais c'est beaucoup.
Là, j'ai moins compris, mais je vous en...
Maître Gims, quand il a vu Fillon habillé, il a créé une chanson qui s'appelait Sapé comme jamais. Je pense que ça lui a donné une belle envie de, d'écrire. Voilà. Je tenais à le dire. Allô? Vous n'avez pas compris?
J'ai plus de mots.
De 7h à 9h, j'écoute Plus près de toi.
Oh, il fait une chaleur dans cette émission. Oh.
Sur Nova, le groupe Part Company avec My Girl. Il est 8h15, dans une petite minute, on va retrouver Jack Souvent dans la rue. Mais d'abord, votre instant faune.
L'animal du mardi.
Eh oui, l'animal de ce mardi, c'est la mésange bleue. C'est un petit passereau très vif, très gracieux et très attachant. Certains ornithologues utilisent même le terme « très mignon ». Un oiseau qui vit principalement en forêt en compagnie de ses sœurs, la mésange charbonnière et la mésange nonnette. Et tous les scientifiques s'accordent à dire qu'il y a là quelque chose de très sympa dans l'esprit.
C'est vrai.
Alors au niveau du bruit que ça fait, Hermel. L'alouette turlute, l'hirondelle trisse, le pinson fringote, la pie jacasse, la cigogne craquette. Mais la mésange fait bien mieux, elle zinzinule.
Ah oui.
Si on ne comprend pas le chant d'une mésange, il convient de lui demander « qu'est-ce que vous zinzinulez ?» Alors, dans la colonne des moins, maintenant, la mésange bleue n'est pas consommable par l'homme. J'ai pris la peine de tester la mésange pour vous. La mésange crue, c'est pas bon. Grillée, c'est pas bon non plus. En ragoût, c'est sans intérêt. À la vapeur, c'est pas mieux. Le pâté de mésange, ça vaut pas le coup. Le confit de mésange, c'est fade. La mésange en croûte de sel, oublie. La tarte aux mésanges, très peu pour moi. Et le jus de mésange, ça craint. Le petit plus de Nova pour terminer. La mésange verte est une mésange bleue qu'on a badigeonnée de jaune d'œuf.
Merci, François Rollin.
Oui, Jack, j'avais rencontré déjà Zachary et ses copains à l'arrêt de bus. Ils étaient en train de lire un manga où il y avait du combat. Et je lui avais dit que la prochaine fois que je le reverrais, il me parlerait d'un manga différent. Alors, qu'est-ce que tu es en train de lire là?
Là, je lis A Silent Voice.
Quoi?
A Silent Voice.
Qu'est-ce que c'est, Silent Voice? C'est quoi l'histoire?
En fait, c'est... Ça parle du harcèlement et du handicap. C'est sur une jeune fille, donc en primaire, qui est sourde et muette et qui se fait au début embêter puis harceler par ses camarades.
Comment il la harcèle?
Ça dépend. Au début, il se moque un peu d'elle, mais après, il lui casse ses appareils auditifs et il s'énerve, quoi. Mais après, ça se règle. Le professeur... dit que ça doit cesser et ça cesse. Et il sait qu'il y a un meneur, donc un jeune garçon qui est le personnage principal de cette histoire, qui en fait, c'était lui le meneur qui a emmené...
Ça va, vous suivez?
Ouais, on essaye. Mais c'est un manga?
Qui a dit aux gens de faire ça. Oui, c'est un manga.
Oui.
Et en fait, après, toutes les autres personnes qui l'avaient fait le renient. Dit qu'il n'y a que lui qui l'a fait alors que toute la classe l'avait fait. Et après, c'est lui, il perd tous ses amis. Et c'est lui qui se fait harceler.
Celui qui l'avait harcelé au départ?
Oui, c'est ça.
Et là, on en est qu'à la page 4.
Oui.
c'est des choses qui arrivent, ça, dans ton école, par exemple, ton collège?
Non, pas spécialement. Enfin, je pense pas.
Ça t'y fait penser, enfin...
Bon, c'est un manga, donc oui, je sais que ça peut arriver en vrai, mais... Enfin, ça m'est jamais vraiment arrivé.
Pas de combat, pas de coup de flingue, tout ça?
Non.
Pas de coup d'épée?
Non.
Rien?
Rien.
Ça manque d'ambiance?
Mais ça a très très bien marché au Japon. Ouais.
Mais
ça a bien marché.
Ça s'est beaucoup, beaucoup vendu.
Qu'est-ce que tu appelles le Japon? Non, pardon, excusez-moi.
Ça a payé le Japon.
Ah, d'accord.
On vient d'apprendre quelque chose.
combien de mangas par jour tu lis?
Je sais pas, ça dépend. Comme ils sortent à peu près tous les deux mois, et ça dépend, ça varie des mois.
Est-ce que tu trouves que Jacques souvent a une tête de manga avec sa coiffure un peu, non? S'il met du gel, ça ferait non? Un peu quand même.
Non, pas beaucoup.
Et parce qu'il fait des prises, il fait du karaté. Tu fais du karaté, Jacques?
Non, je fais du judo, moi.
Ah ben voilà, c'est ça, tu nous l'avais... Parce qu'il peut faire des prises, Jacques, hein?
Ah ouais, peut-être.
Par contre, Zachary, lui, il a les cheveux bien en l'air, on dirait comment il s'appelle ce personnage avec les cheveux en l'air?
Dragon Ball Z.
Voilà, Dragon Ball Z.
Oui, c'est pas.
Bon, en tout cas, moi, j'aurais appris qu'il y a un manga sans combat, c'est ça?
Ouais, c'est ça. Bah, il y en a plusieurs, hein. J'en lis pas trop de ce type-là.
Tu préfères quoi, toi, les mangas comme ça ou ceux avec les...
Non, je préfère quand il y a des gros combats avec des attaques bien stylées.
Ah. Eh bien, lis Le Figaro.
Bon, bah voilà. Bon, bah moi je continue. Je vais essayer de pas trop rencontrer. On est au bord de la forêt là, et j'espère pas rencontrer trop de
la forêt de Paris.
De combattants.
Vous êtes combattants, à Saint-Mandé là, non?
La forêt de Paris, pas très loin.
Ah,
très
loin, je savais que c'était Place d'Italie tout à l'heure.
Pas très loin. Non, perdu.
Oh.
Vous aussi, vous pouvez jouer chez vous. À tout à l'heure, Jack. Marie Misset a lu des mangas toute la matinée.
Qui c'est qui a dit qu'elle travaillait pas, qu'elle fait que lire le journal? La revue de presse de Marie Misset.
Bonjour.
Bonjour.
Il est possible que la voix s'en aille avant la fin également aujourd'hui. Ce matin, dans la presse, la campagne de Geert Wilders aux Pays-Bas fait couler l'encre du monde, qui est allé enquêter dans une Rotterdam sous tension. Dans Libération, on apprend que Geert Wilders est le seul membre de son propre parti, le PVV, ça je le savais pas. Le programme de François Fillon continue à s'afficher dans la presse, notamment dans Le Figaro, où on lit le nouveau code de bonne conduite qu'il veut imposer à ses ministres, ou la volonté de faire encore plus de transparence en politique et d'obliger, notamment les parlementaires, à faire part des liens de parenté qu'ils entretiennent avec leurs collaborateurs. Et puis, Le Parisien se fait écho des dernières révélations de l'enquête sur François Fillon, qui concerne des sommes que les enfants de François Fillon auraient reversées à leurs parents chaque mois. Marie Fillon dit que c'était pour rembourser son mariage, tandis que l'avocat de François Fillon estime que le combat ne se joue pas à armes égales. C'est vrai que les médias ont chaque jour un nouveau truc à se mettre sous la dent. Mais est-ce que la justice que François Fillon et Marine Le Pen ont mise en cause ces dernières semaines est vraiment partiale? Eh bien, Le Monde s'est posé la question et publié dans son édition du 14 mars, hier après-midi, un dossier juge et politique, le combat frontal. Le juge Gentil explique par exemple que dans 80% des cas, la procédure qui a été suivie dans l'affaire Fillon est la même que celle suivie par le juge Tourner. L'article s'arrête notamment sur la personnalité de ce juge, un des trois juges saisis dans l'affaire Fillon. Il a été formé à l'école GIRS, mise en place en 2004 pour lutter contre la grande criminalité et la délinquance judiciaire. Et avec les autres juges qui ont suivi cette formation costaud, ils forment, je cite Le Monde, une sorte de mini-confrérie, car ces juges se soutiennent sans réserve. Du coup, Le Monde est allé plutôt voir ceux qui ont fait les frais de ces enquêtes au juge Tourner. C'est ceux qui ont eu affaire à lui qui en parlent le mieux, dit Le Monde. Jérôme Lavrieux, mis en cause dans l'affaire Pygmalion, dit par exemple que le juge l'a réconcilié avec la justice, tandis que Bernard Tapie, lui aussi entendu par le juge Tourner, dit « J'en ai fréquenté beaucoup des juges. Lui, c'est un chasseur. Je le déteste, mais j'ai du respect pour lui. Il sait écouter. Ce n'est pas un juge politique. Le procès qu'on lui fait ne tient pas. C'est le meilleur au corps à corps. On voit qu'il a travaillé sur la pègre à Marseille, tandis que le nouveau président de la nouvelle agence nationale anticorruption renchérit face aux puissants. Le juge Tourner n'est pas du tout obsédé. Il n'est vraiment pas dans l'idéologie, pas engagé politiquement à ma connaissance. Oui, il est sûrement dur, mais il a raison. Cette image du juge inflexible qui ne veut qu'appliquer la loi, le juge austère et droit qui fait le ménage n'est pas nouvelle, ni dans notre monde, ni dans notre civilisation. Comprendre le monde, les entretiens de la Revue 21 publient une passionnante interview de Xu Jiefei. Elle est née dans un camp forestier dans le cœur de la Chine. Elle dit avoir compris la vie le jour où dans un livre, il était écrit que sur une main, Dieu avait écrit « Tu n'es rien » et sur l'autre « Mais j'ai créé le monde pour toi ». À partir de là, elle a décidé de suivre ses rêves et aujourd'hui elle est éditrice en France. Elle promeut 5000 ans de culture chinoise et édite notamment avec son mari les aventures du juge Bao, juge mythique en Chine qui vivait à la cour au XIe siècle. Un personnage connu de tous les Chinois pour son incorruptibilité, sa sagesse, sa défense des pauvres et des opprimés, et il représente aujourd'hui encore pour le peuple chinois le symbole d'une justice inflexible, capable de juger et de condamner sans distinction délinquants issus du bas peuple comme ceux appartenant aux hautes sphères de l'État. Bref, toute ressemblance
et fortuite. L'entretien avec Sue, j'ai failli étalir dans Comprendre le monde. Et alors, pour certains, le mythe d'une justice aveugle reste absolument, définitivement, un mythe. Libé parle d'un livre édité en France seulement aujourd'hui, La couleur de la justice, qui, quand il est sorti aux États-Unis, a fait un sacré ramdam. Dans ce livre très documenté, Michel Alexander estime que le système judiciaire américain a remplacé la ségrégation raciale. War on drug is the new Jim Crow, c'est ce qu'elle dit. La guerre contre la drogue, c'est le nouveau Jim Crow, du nom des lois ségrégationnistes qui ont été votées juste après l'abolition de l'esclavage dans le sud des États-Unis. À délit égal, elle rappelle, et alors que le trafic et la consommation de drogue concernent les blancs et les noirs à parts égales aux États-Unis, selon les statistiques, un noir sur 14 est en prison aux États-Unis. C'est le cas d'un blanc sur 106 seulement. Dans son essai très documenté, elle explique comment la ségrégation a juste changé de mode, comment quand on sort de prison, on devient justement un citoyen de seconde zone, et elle appelle à réfléchir au rôle des institutions. Car, dit-elle, quand les institutions ne font pas ce qu'elles sont censées faire, c'est qu'elles font autre chose. Reste à savoir quoi.
Merci Marie Misset. Nous prenons tout de suite le chemin du téléphone où nous attend Édouard Baer. Normalement.
Non, j'étais là en écoute. Vous embrouillez l'écoute et la parole. Vous savez, parfois, c'est je suis là pour écouter, comme vous, cher Armé.
Oui, c'était très bien, parce qu'il y a un biopic sur le juge Tournaire, moi je sais. Non, c'est vrai ? Qui va se faire avec François Rollin.
J'ai pas compris tout. Un noir sur 14 est en prison, non, oui. Pas par rapport à la population générale.
Si, un noir sur 14 aux États-Unis est en prison.
Non.
Si.
Un noir sur 14 est en prison, mais il y a une vraie surpopulation carcérale aux États-Unis. Il y a un vrai problème carcéral aux États-Unis.
C'est le principe de Coluche là-bas aux États-Unis. Il y a l'avocat qui connaît la loi et l'avocat qui connaît le juge.
Un noir sur 14, mais il y a un gros problème de privatisation des prisons aussi, où il faut qu'elles soient remplies pour être rentables.
Édouard ?
Non, c'est un. Non, on l'entendra pas.
Oui, mais attendez, trompez-vous, Atman n'était pas en train d'appeler Édouard. Il s'exclamait comme ça, démarrait une poésie, comme on dit.
Oui, comme un ami qui dirait Ah, Édouard, oh, Édouard, Édouard.
Thierry, pareil, nous rejoindra dans un instant après la pub. Il sera là pour les infos.
Nova, plus près de toi.
Plus près de toi. 7h.
Il m'en reste un peu, je vous le mets quand même.
8h30, la rubrique vestimentaire de Radio Nova.
Oui, on peut parler de votre t-shirt, Thierry Paré.
Ah, bah,
je déteste encore ta shirt.
Ouais, je suis pas peu fier, hein. Tout vert, d'Irlande.
D'Irlande,
c'est des militants, des militants républicains irlandais qui ont sorti ce t-shirt. On le trouve peu, hein, aujourd'hui. Oui.
Je déteste
encore Thatcher avec un beau portrait de Thatcher dessus.
Eh bien, alors, a marqué. Eh bien, c'est à vous, je crois, non?
Et c'était au lendemain de sa mort, en plus.
Les infos, Thierry Paré.
Fusion pour certains, rachats cachés pour d'autres, l'accouplement, entre guillemets, annoncé à la surprise générale du Racing 92 et du Stade français a déclenché une volée de réactions bien au-delà du monde de l'Ovalie. Les anciens rivaux parisiens ont donc détaillé hier leur projet d'union qui devrait permettre la création d'un seul club dès la saison prochaine, mais qui suscite beaucoup d'interrogations. Quel stade pour accueillir cette nouvelle équipe? Qui pour la diriger? Avec quel joueur? Quel sera son nom? Etc. Opportuniste diront certains, lucide diront d'autres. La première ministre écossaise annonce son souhait d'organiser un nouveau référendum sur l'indépendance de l'Écosse, le jour même où le Parlement britannique autorise Theresa May à déclencher le Brexit. Les députés britanniques ont approuvé la loi autorisant le gouvernement à activer le fameux article 50 du traité de Lisbonne. Alors ceci dit, même si le processus est officiellement enclenché, le départ de l'Angleterre de l'Europe n'interviendra pas avant au moins 2 ans. C'est plié, diront certains, rien n'est fait, diront d'autres. Les Néerlandais sont appelés aux urnes demain pour des législatives très attendues avec en embuscade l'extrême droite. La fin de campagne est marquée par le dossier turc. Après le refus des Pays-Bas d'accorder la possibilité au ministre turc des Affaires étrangères d'organiser un meeting sur son territoire pour défendre le oui au référendum du 16 avril destiné à renforcer les pouvoirs du président Erdogan, la Turquie n'a pas tardé à réagir. Les premières sanctions sont tombées hier soir. Ankara annonce la suspension des rencontres bilatérales avec les ministres et hauts dirigeants néerlandais. L'ambassadeur néerlandais à Ankara a été déclaré persona non grata. Enfin, le gouvernement d'Ankara demande au Parlement turc de dénoncer le traité d'amitié unissant la Turquie et les Pays-Bas. Une juge d'instruction a ordonné le renvoi devant la cour d'assises de 4 skinheads impliqués dans la mort de Clément Méric. Le jeune militant antifasciste a perdu la vie, c'était le 5 juin 2013, dans une bagarre dans le quartier Saint-Lazare à Paris. Acharnement, diront certains, justice, diront d'autres. Alors que François Fillon pourrait être mis en examen demain dans le cadre du Penelope Gate, on a appris que que ses enfants, toujours en lien avec cette affaire, auraient reversé une grosse partie de leur salaire sur le compte joint de leurs parents lorsqu'ils étaient attachés parlementaires pour leur père au Sénat. Exemple, sur les 46 000 euros nets touchés par Marie Fillon comme attachée parlementaire de son père, eh bien celle-ci aurait rétrocédé environ 33 000 euros sur le compte joint de ses parents, soit plus de 70% de ses rémunérations. C'est la fille de François Fillon elle-même qui, lors de son audition le 9 février dernier, aurait spontanément révélé l'existence de ses virements à la police judiciaire, les justifiant par le remboursement de son mariage. Anecdotique, diront certains. Erreur grave, diront
d'autres.
Anecdotique Ferdinand Mélin Soukramanien.
Non, là, tu dois dire erreur grave.
Erreur grave, pardon, oui, je me suis trompé.
Ferdinand Mélin Soukramanien, le déontologue de l'Assemblée nationale, a annoncé s'être saisi de l'affaire des costumes de François Fillon, offert par un ami, pour rechercher s'il y a eu un manquement ou pas au code de déontologie des députés. Malgré tout, François Fillon tente toujours de relancer sa campagne. Le candidat de la droite a exposé hier, lors d'une conférence de presse, son projet pour la France, en confirmant son intention de mettre fin aux 35 heures et à l'ISF, l'impôt sur la fortune, tout en supprimant 500 000 postes de fonctionnaires. Le candidat entend également s'atteler, en cas d'élection bien sûr, à l'augmentation de la TVA, à la refonte du code du travail et à la réforme de l'assurance maladie. Macron, diront certains, Hamon, diront d'autres,
Macron,
bien que les candidats... Vous voulez le faire, allez-y.
Macron, diront... Hamon, diront d'autres.
Voilà, bien que les candidats à la primaire socialiste se soient engagés à soutenir le vainqueur, Le Parisien nous apprend ce matin que Manuel Valls pourrait se prononcer en faveur d'Emmanuel Macron, et ce dès le premier tour. C'est une information qui reste quand même à confirmer, puisque le premier intéressé dément. Et puis en tennis, Gaël Monfils a battu Isner et s'est qualifié pour les huitièmes de finale du tournoi californien d'Indian Wells.
Non, moi, on a essayé de faire le Conservatoire National de Carglass, des gens qui parlent très faux, et on n'est pas arrivé.
C'est la journée de pied aujourd'hui. Hein.
J'ai un impact dans le pare-brise.
Ah, un impact. C'est François Rollin qui le fait bien, ça.
La météo de
Seigneur
Tito.
Météo, quoi nous dit qu'il fait beau. Seigneur Météo, agrable la terre. Aïe, Seigneur Météo, alors aujourd'hui, figurez-vous qu'il fait nuage noir sur toute la Manche. Et ailleurs, il fera un petit peu beau dans toute la France. Les températures seront à Amiens de 7 à 16, à Avignon de 7 à 20, à Corté de 4 à 17, Dreux de 7 à 16, Laval de 6 à 16, Melun de 6 à 16, Metz de 3 à 14, Pau de 5 à 17, Poitiers de 4 à 16, Saint-Étienne de 2 à 15, Vienne de 5 à 13. Seigneur Météo, quoi nous dit qu'il fait beau. Seigneur Météo, agréable quel frigo.
C'est pour rendre hommage au vrai Carlos, celui qu'on aime.
Voilà, il y a passé plusieurs Carlos aujourd'hui.
François Rollin, comment voyez-vous la dernière demi-heure de l'émission?
Alors, je la vois en demi-teinte, parce que Nova a une spécialité, depuis que cette antenne existe, c'est les contrastes. On est très fort dans les contrastes.
Terre de contraste.
Terre de contraste. Et comme vraiment, on a toute la première partie de l'émission a été sous le signe de la joie et de la bonne humeur, et ben là, je ne dis pas, attention, il n'y a pas de mauvaise humeur, ni de rancœur maintenant, mais enfin, il va y avoir quelque chose d'un peu plus sentimental, un peu plus doux, quelquefois, peut-être quelques côtés sombres. Ça n'est pas pour me déplaire.
Jack souvent est dans la rue.
Je suis avec Romain. On est alors c'est par hasard. Je marchais donc le long du bois de Vincennes. On était devant le centre d'appel et il y a plein de jeunes. C'est la journée d'appel. Je suis avec Romain, donc 17 ans.
Bonjour.
Et tu peux nous décrire ce qui se passe là? On est devant une grille. Il y a des herbes, il y a des drapeaux, il y a des.
Bah là il y a un militaire armé. Là il y a une grande queue pour rentrer pour faire notre journée d'appel. Bah là je suis en train d'attendre parce que la queue elle est vraiment longue. Et voilà.
T'as reçu t'as une feuille de convocation et tu sais ce qui va se passer cette journée?
J'ai pas voulu poser de questions pour la surprise en fait. Ah. Donc sérieusement, je sais même pas ce qui va se passer. Je sais juste on va parler je pense de la citoyenneté en France et tout. Hein. Ouais. Moi je suis pas sûr.
Non, c'est pas ça.
Non, mais est-ce que c'est quoi? C'est l'ancêtre des trois jours qu'on faisait avant?
Oui, c'est ça. Je pense que c'est l'ancêtre des trois jours. C'est la nouvelle journée qui a été mise en place.
La journée
civique.
Il y a
civique. Vraiment une population complètement mixte, très, femmes, garçons. Il y a plein de gens qui viennent d'endroits différents et ils se réunissent ici. C'est 8h30 la rentrée.
Oui, c'est à 8h30. C'est plutôt l'ancêtre de. Comment ça s'appelle? Pendant un an, on devait...
Ça s'appelle service militaire. Le service militaire, il y avait trois jours d'appel avant. On vous expliquait tout, ouais. L'incorporation, quoi.
C'est trois jours seulement.
Il y avait trois jours au début, et puis après, il y avait l'armée.
Ah oui, voilà.
Moi, je l'ai fait, donc...
Ça t'impressionne un petit peu, là, cette grille? C'est un peu austère, hein.
Ouais, j'avoue, il y a une espèce de arche, là, comme ça. Après, je vois pas ce qu'il y a à l'intérieur, précisément, là.
Eh non, c'est fait exprès, hein.
Est-ce que t'as tes papiers avec toi?
Ben ouais, j'ai mes papiers, ouais.
Voilà, un petit moment.
Je voudrais pas vous inquiéter, mais apprêtez-vous à faire quand même 500 pompes au moins aujourd'hui. Hein.
Ouais. Ne pas rester devant cet accès, rejoindre l'entrée principale du Fort Neuf. On est au Fort Neuf, voilà. Développez votre esprit de défense. Journée Défense et Citoyenneté, JDC, site du Fort Neuf de Vincennes. Je vois un adjudant-chef qui s'avance vers nous.
Oui.
Parce que, bonjour.
Est-ce qu'il est chauve et qu'il ressemble à Jacques Seller?
Comment ça se passe la journée d'appel là? On va leur présenter une information sur la défense, tout simplement. D'accord? Donc, voir sur la citoyenneté, sur la défense, ce qu'on défend, exactement. Voilà. D'accord? Ça dure combien de temps? Je peux pas trop vous renseigner, il faut passer par le service communication, normalement. Voilà, c'est pour ça que j'étais à l'extérieur de la grille. Ouais. Voilà. Eh bien, bonne journée, Romain.
Merci à vous aussi. Bonne journée.
Et bonne défense.
Oui. Ben, merci.
Et Jacques, vous avez compris, il y avait déjà de l'autorité. Hein, là, on était voilà. Déjà.
Ah,
là,
oui, mais... oui.
Il a failli dire bande de petits salopards. Comment à un moment donné. Mais
je travaille pour quelle radio?
Oui, c'est radio.
Oui.
C'est une question que je vous pose.
Ah, pardon, c'est Radio Nova.
D'accord, très bien. Voilà.
Merci. Non, vous n'êtes pas au courant. Ouais. On vous laisse. Hein. Jacques Souvent, bon courage.
Ouais. On était déjà, hein, garde à vous. Hein.
Allez, salut.
Oui, c'est... Voilà.
Bravo,
au
Jacques.
Bravo.
Plus près.
8h41, sauver le monde avec des chaussettes, est-ce possible, Thomas? Oui, évidemment.
Bah, on va voir ça avec Guillaume Villemot qui vient régulièrement nous présenter ici les bonnes nouvelles, on va dire, des initiatives concrètes et solidaires. Guillaume Villemot de l'association Bleu Blanc Zèbre, les zèbres sont nombreux à travers tout le territoire et il porte des projets et notamment donc effectivement, ce matin pour commencer, Guillaume, vous venez nous parler d'une association qui s'appelle Soc en Stock, il y a un jeu de mots, Soc c'est chaussettes. Sauver le monde par les chaussettes?
Ouais, bonjour. J'ai reçu la semaine dernière un mail de deux jeunes qui sont à Lille, qui s'appellent Nathan Bouni et Léa Gonzalez, et qui ont lancé cette association qui s'appelle donc Soc en Stock. On a tous vécu ce drame de, on ouvre notre machine à laver le linge et il manque une chaussette alors qu'on en a mis deux au départ. Mmh. Et ben eux se sont dit plutôt que de laisser ces chaussettes orphelines et de les planquer dans un coin, et ben on va les récupérer. On va créer des points de collecte un peu partout. Alors ils démarrent tout juste et ils font leur point de collecte dans le Nord. On va récupérer donc ces chaussettes et on va aller les redistribuer derrière à des associations qui s'occupent de SDF, à des associations qui s'occupent de réfugiés. L'objectif étant de se dire que pour nous, ça a peut-être une importance d'avoir des chaussettes de la même couleur, mais il y a un certain nombre de gens pour lesquels ils ont juste besoin d'avoir chaud et d'avoir des chaussettes neuves, entre guillemets, qu'on puisse leur donner. Et donc, c'est pour ça qu'ils ont créé ça. La seule condition, et qui est importante, c'est qu'il faut leur donner des chaussettes propres et non mouillées. Alors, j'ai pas compris le non mouillé, si ce n'est que ça doit être des chaussettes sèches, oui. Mais sinon, voilà.
Mais propre, c'est-à-dire pas neuve, c'est-à-dire lavé.
Lavé, exactement. D'accord. Il faut déjà leur donner lavé.
Lavé, donc rincé et séché.
Exactement, voilà. Exactement.
Mais on peut aussi donner des paires de chaussettes qui vont ensemble.
Si on a soi-même des chaussettes qu'on n'aime plus, on a mis dans un fond de placard et qu'on ne veut plus utiliser, on peut également donner ces paires de chaussettes-là. Et voilà. Et je trouve que c'est une initiative qui est à la fois drôle, qui est excessivement facile à faire. Ils veulent aller dans les écoles et c'est effectivement hyper simple d'aller demander à des enfants de se mobiliser aussi et de récupérer des chaussettes qu'ils peuvent avoir chez eux. Ils sont en train de demander à des cours de danse de pouvoir être présents parce que là aussi, il y a plein de chaussettes orphelines. Eh bien, luttons contre cet abandon des chaussettes orphelines et pour pouvoir leur apporter et leur donner une nouvelle vie, une nouvelle dimension.
Alors, comment il faut leur envoyer les chaussettes?
Alors, il faut aller aujourd'hui sur leur site internet et sur leur page Facebook, donc Soc en Stock, et à partir de là, ils vous donneront la liste des points de collecte qui existent, encore une fois pour le moment, dans le Nord, mais ils ont envie de descendre et d'aller envahir la totalité du territoire.
Parce que ça, c'est une question essentielle, parce qu'on est très nombreux à avoir plein de choses à donner, mais où les donner ? Et on voit bien que ça pourrait servir à des gens qui en ont bien besoin,
tout
mais
à
où
fait.
Les donner ? Moi, par exemple, j'ai toujours eu de la vaisselle en trop. Je renouvelle la vaisselle et tout ça, j'ai des tonnes d'assiettes, de verres, tout ça. Il y a des gens que ça dépannerait, mais je ne sais pas du tout à qui les donner.
Et c'est souvent très compliqué, parce que souvent, quand on va aujourd'hui dans les associations et qu'on apporte les choses, les associations disent, bah non, ça nous arrange pas, ouais. Etc., etc. Donc c'est compliqué. Donc là, il y a cette initiative ouais. Qui démarre, ils sont focalisés sur la chaussette, ouais. Et je trouve que c'est bien de leur donner un petit coup de main.
Il est déjà arrivé qu'une chaussette retrouve sa petite sœur orpheline des années plus tard dans un centre de tri.
Oui, je comme les animaux encore. Qui reviennent tout seuls.
Ben oui, tout ça. Moi, je voudrais avoir cette histoire magnifique.
Comme oui, des chiens qui ont fait des dizaines de kilomètres. Retrouver voilà. Leur maître et là on aurait une chaussette qui reviendrait.
Un beau voilà. Scénario ça.
Affaire à
suivre. Un beau scénario, un beau dessin animé qui pourrait avoir l'Oscar.
Alors deuxième initiative. Allô. Guillaume Villemot. Ah, oui. On entend quelqu'un.
Ici votre correspondant à Johannesburg, je peux vous dire que cette histoire de chaussettes ici a vraiment frappé les esprits parce qu'on est très touché par les vêtements qui vont par paire et quand l'un disparaît, l'autre reste seul aussi. Parce qu'on ne pense pas seulement aux gens qui vont récupérer les chaussettes, il faut penser aussi au destin d'un vêtement abandonné. Alors que par exemple le slip, lui, vient seul, il ne vient pas en deux parties. D'où le fait qu'il se suffise à lui-même. Et ça c'est très important aussi, les vêtements qui suffisent à eux-mêmes.
Oui. Développer.
Non, mais écoutez, je suis ici à nouveau sur mon tournage. Je suis avec l'ingénieur du son, un des grands noms du son. Je suis toujours avec Michel Gohou, notre ami comédien, le roi de la francophonie. Michel, vous-même, là, on parlait de récupération de chaussettes. Est-ce que la chaussette est une pièce de vêtements importante pour vous à Abidjan?
Abidjan, c'est pas tout le monde qui porte la chaussette. Hein. Dès que tu mets le pied dans la chaussure, on sait pas ce qu'il y a en bas. Voilà, donc la chaussette, mais tout est sûr. Après, il y a des puanteurs. Et c'est ça qui est dégueulasse dans l'affaire.
La puanteur vient du pied, vient de la chaussette, vient de la chaussure, vient d'un mélange des trois, vient de l'absence de... À votre avis, qu'est-ce qui crée ce problème?
Qu'est-ce qui crée quel problème?
Le problème d'odeur que vous aviez évoqué.
Oui, parce que souvent, quand tu ne portes pas la chaussette, ça te donne des pieds d'athlète. Et les pieds d'athlète, à force de pourrir, ça crée souvent des odeurs vraiment nauséabondes.
Oui, je crois que ce sont des sujets qu'il faut aborder aussi. J'ai l'impression qu'à Paris, vous êtes un peu hors sol. Vous êtes coupé des réalités. Quand vous parlez chaussettes, vous voyez juste pièces de vêtements, vous voyez des chaussettes de baladure.
Ne vous fatiguez pas, Edouard, il n'y a plus personne dans le studio. Je suis resté tout seul, mais ils sont tous partis.
En tout cas, je peux vous dire que, vous savez, la chaussette est aussi un vêtement qui marque son œuvre. Rappelez-vous que Balladur faisait faire chez Chaussettes, chez le maître chaussettier du pape. Et je crois que François Fillon, pour ne pas le charger encore une fois, bah, lui aussi. Voilà.
Il y a 33 000 euros de chaussettes chez François Fillon. Voilà.
Il est connu pour ses... Pardon ?
Je crois que François Hollande est en clac-clac, qu'il est pieds nus.
Thomas, une autre initiative.
Oui, il y avait une deuxième initiative, Guillaume Villemot, dont vous voulez nous parler ce matin. Ça s'appelle APPEL, avec un S, l'Agence pour l'éducation par le sport. Éducation par le sport, qui coordonne plus de 6000 initiatives sur justement l'insertion par le sport.
Ouais, c'est une action qui a été créée, l'appel ça a été créé par un type assez étonnant qui s'appelle Jean-Philippe Asensi, qui a été créé il y a 20 ans et qui est parti d'un constat, lui-même est un ancien sportif, et s'est rendu compte que dans un certain nombre de quartiers, s'il y avait bien encore un endroit où il y avait une autorité, une règle, un mode de fonctionnement et où les jeunes avaient plaisir à aller, c'était les clubs de sport. Et donc il a décidé de monter cette association qui regroupe donc des milliers de clubs à travers la France, et il lance un certain nombre d'initiatives pour que au travers du sport, on puisse favoriser l'insertion sociale, mais également l'insertion professionnelle de jeunes. Aujourd'hui, ils ont développé toute une série d'actions. Ils viennent de lancer... alors, il y a une action qui s'appelle le déclic de l'espoir. Ils viennent de lancer un nouveau programme au mois de janvier dernier et qui a pour but d'aller justement repérer des actions qui sont particulièrement innovantes en termes d'insertion. C'est aller tellement loin qu'ils ont signé un accord avec deux banques, qui sont le Crédit Agricole et le LCL, pour aller développer avec ces banques-là des partenariats qui font qu'ils vont directement, quand les banques ouvrent des agences dans différentes villes, etc., ils vont aller avec l'APELS recruter directement des jeunes qui vont être passés par des centres de formation à la fois sport et en même temps bancaire, et qui du coup vont être des gamins qui sont mis dans des cadres, parce que quand vous faites du sport et que vous faites du sport en équipe ou que vous avez un entraîneur, on vous apprend à respecter les horaires, respecter une consigne, dire oui, enfin il y a un certain nombre de règles de base, être poli, etc., ou respectueux en tout cas des autres, et grâce à ça, que ce soit le crédit, le LCL et le Crédit Agricole, il y a tous ces parcours qui ont été développés. Donc avec le LCL, je crois que c'est une centaine de jeunes qui ont été mis à l'emploi aujourd'hui grâce à ça. Il y en a un peu moins pour le moment avec le Crédit Agricole. Il y a en ce moment une soixantaine de jeunes qui sont en formation et qui sont en alternance, pardon, à l'intérieur de ces programmes-là, en apprentissage, et qu'on retrouve aussi bien à Roubaix, au Havre, qu'à la Goutte d'Or. Et l'avantage de ces programmes-là, c'est que véritablement, au travers du sport, on arrive à redonner une dynamique et une dynamique positive, et de montrer que le sport, finalement, c'est la première base ou le premier échelon qui permet de repartir dans une dynamique positive.
Oui, j'ai vu un reportage là-dessus où il y avait deux recruteurs, un pour les changer de club et un recruteur banquier, ouais, qui faisait que la personne, moi je le prends, il y avait une vraie bataille.
Ouais, et ce qui est intéressant, c'est que les retours aujourd'hui de ces deux établissements bancaires sont excessivement positifs, en disant on a des jeunes qui sont heureux de venir bosser, à qui on a redonné une fierté et à qui on a redonné véritablement une posture. Ils se tiennent droit dans tous les sens du terme, parce qu'ils ont une vraie envie, et qu'on leur a montré que le sport, c'est pas qu'un truc pour des abrutis avec le front bas, c'est que ça sert à quelque chose et que c'est essentiel dans une existence aujourd'hui.
Il y a un site internet éducationparlesport.com et puis il y a le site de Bleu Blanc Zèbre, Guillaume Villemot, j'imagine, on va retrouver ces initiatives, que ce soit la PELS ou Soc en Stock dont on a parlé juste avant. Merci d'être passé par
là. Elton John ne mettait pas deux fois la même paire de chaussettes, donc il faut l'appeler.
Faut l'appeler.
Il a un stock.
Ne reviens pas là-dessus.
Mais si, parce qu'on est revenu sur Soc en Stock.
On veut maintenant, merci à Guillaume Villemot, je regrette de ne pas voir cher Guillaume. Je crois qu'on va passer au jeu de François Rollin. C'est un jeu qu'on attend depuis maintenant des heures, depuis 7 heures de matin. Les gens l'attendent. Justement, Michel Gohou, grand acteur africain, va nous donner une leçon de patience. Comment être patient, Michel?
Vous savez, chez nous, on dit, il y a un adage qui dit que la patience, c'est un chemin d'or. La patience, avec la patience, on arrive à obtenir ce qu'on on prétend obtenir depuis fort longtemps. Avec la patience, on arrive à voir venir tout, que ce soit bon, que ce soit mauvais. Avec la patience, on arrive quand même à surmonter des montagnes. Vous savez, quand tu es patient, ça veut dire que tu sais ce que tu veux, tu sais où tu vas, tu sais sur quoi tu es assis. Dans la précipitation, on perd tout. Voilà.
Merci Michel, à tout de suite. Nous avons mérité le jeu de François Rollin.
Pour illustrer cette leçon de patience, on va même écouter un peu de musique. Et le jeu viendra juste après. Sur Nova, le duo Aluna George avec You Know You Like It, il est 8h54. C'est l'heure, mais vraiment l'heure du jeu. C'est pas une autre heure, c'est à cette heure-là.
C'est 54.
Il n'y a pas un générique?
C'est le jeu de 54. Si je crois qu'il y a un petit générique du jeu de 54.
Qu'est-ce qu'on entend là?
C'est ça. Alors aujourd'hui, j'ai revisité pour vous un célèbre jeu radiophonique, La Valise. Avec des règles un peu différentes, vous l'imaginez bien. L'auditeur ou l'auditrice que nous appelons n'a pas besoin de nous donner le contenu de la valise. C'est anecdotique et c'est fastidieux. Non, l'auditeur ou l'auditrice doit seulement nous citer un cadeau qui n'est pas dans la valise. Alors, je vous aide un petit peu pour ce matin. Cette valise de ce matin contient une grappe de raisin. Donc la seule mauvaise réponse, c'est une grappe de raisin. Et en même temps, ne vous en mêlez pas les pinceaux, parce que ce que vous gagnez, si vous me donnez une bonne réponse, c'est une grappe de raisin.
D'accord, je crois que c'est clair.
Nous avons un auditeur, une auditrice en ligne.
Alors, qui est en ligne?
Oui, allô?
Oui, allô, quel est votre prénom?
Je m'appelle Awa.
Awa, très bien, oui, d'ailleurs je le sais puisque nous avons tiré au hasard. C'est nous qui vous appelons. Alors, je ne vais pas vous laisser le temps de réfléchir longtemps. Voulez-vous me citer un cadeau qui n'est pas dans la valise Nova de ce matin?
Une grappe de raisin.
Dommage. Allons, enfin, quel dommage.
C'est passé à ça.
Oui, elle était ses cheveux. Puisque la grappe de raisin, elle est dans la valise, donc elle y est et elle y reste puisque vous ne la gagnez pas. Vous me suivez?
C'est perdu.
C'est bien perdu. Elle est en larmes, la pauvre gamine.
Il y avait combien de chances pour qu'elle tombe sur les mots grappe de raisin?
Pas beaucoup, mais qu'est-ce que tu veux?
Il l'avait prévenu, hein, pourtant, avant. Il l'avait dit. Les gens n'écoutent pas.
Pas bien réveillé.
Merci François.
Je conseille à Awa un kawa. Voilà, c'est bien.
7h, 9h, plus près de toi.
Il reste 40 secondes d'émission. François Rollin, comment est-ce que vous voyez ces 40 dernières secondes?
Déchirantes, pour ma part, déchirantes. Je vais devoir attendre 168 heures pour vous retrouver, enfin un petit peu moins, 166, puisque j'arrive le mardi à 7h.
Vous avez fait le calcul de tête, là?
De tête, oui. Mais c'est vous dire à quel point ma détresse...
C'est presque de l'autisme, il connaît bien les trucs.
Voilà, je suis psychotropé par la détresse. Détresse.
On va se dire au revoir, maîtresse. Alors, c'est ça?
On va s'étreindre,
on va relever les tablettes, détacher les ceintures et commencer à atterrir, au contraire.
Mais écoutez, je vous souhaite une très bonne journée à tous.
Ouais, surtout nos auditeurs et nos auditrices, ils ont bien de la patience, bien du mérite d'écouter nos bêtises. Hein. Merci les amis.
Merci Tito.
Edouard Baird.
7h-9h.
Plus près de toi.
Point final.